chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans le studio pour parler aujourd'hui de notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne des archives départementales d'Eure-et-Loire et de leur histoire. Et pour évoquer l'histoire de ces archives, j'ai le très grand plaisir de souhaiter la bienvenue dans le studio à Emmanuel Rousseau, qui est le directeur des archives. Bonjour Monsieur Rousseau. Je pense que vous aurez la bonté de présenter peut-être les archives telles qu'elles se présentent aujourd'hui, car elles ont déménagé récemment du centre-ville, un peu vers l'extérieur. Et pour les personnes qui voudraient faire des recherches, ce serait très bien de rappeler où se trouve le bâtiment qui abrite désormais les archives.
Bonjour madame, bonjour à tous vos auditeurs. Je vous remercie beaucoup de votre invitation qui me donne l'occasion de présenter une institution qui est très ancienne mais qui est souvent mal connue. Alors en effet, les archives départementales de Eure-et-Loire sont installées depuis 2006 dans un nouveau bâtiment à la périphérie de Chartres, une périphérie toute proche puisque nous sommes à côté de la gare, à côté du Compas. Donc dans un bâtiment neuf, comme vous nous le disiez à l'instant, qui a été construit par un architecte d'origine polonaise qui s'appelle Stanislas Fischer et qui est particulièrement adapté à la conservation des archives, mais aussi à la mission essentielle du service dont j'ai la responsabilité, qui est la communication des archives. C'est un très bel instrument de travail. Alors peut-être qu'on pourrait regarder ce qu'a été l'histoire des archives dans notre département, brièvement, parce qu'il ne faudrait pas non plus fatiguer vos auditeurs. Les archives départementales sont, je crois que je peux le dire sans aucune pudeur, la plus ancienne institution culturelle du département d'Eure-et-Loire, puisque nous avons été créés pendant la Révolution française en 1796. La loi de Brumaire-Andis crée un service d'archives dans chacun des départements de la France. Ce service est installé au chef-lieu du premier district du département, puisqu'à l'époque on n'avait pas encore de préfecture, les préfectures n'apparaissent qu'en 1800. Et les archives départementales, au moment de la Révolution, ont pour mission de recueillir tous les papiers laissés à l'abandon du fait des réformes de la Révolution, donc les papiers des institutions ecclésiastiques, des institutions seigneuriales, des institutions royales, qui avaient leur siège dans le ressort du département. Donc il faut imaginer une masse très importante de documents entrés par voie de confiscation, de spoliation ou bien purement de disparition des institutions. Et ces papiers ont été rassemblés par les commissaires révolutionnaires dans un lieu que vos auditeurs connaissent sans doute, qui est la chapelle Saint-Piat à l'arrière de la cathédrale, qui a été le premier, je dirais, abri des archives départementales. Et donc là, il y a eu des fonctionnaires du district d'Eure-et-Loire, du directoire d'Eure-et-Loire plus précisément, qui se sont chargés de commencer à organiser ces papiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne conserve pas des archives pour faire de l'histoire au moment de la Révolution. On conserve des archives parce qu'elles vont pouvoir prouver des droits. Et depuis les temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité, chez les Assyro-Babyloniens, en moins 3000 avant Jésus-Christ, on conservait déjà des archives pour faire valoir des droits, les droits d'une administration, les droits des administrés. Et donc, au moment de la Révolution française, on va conserver précieusement tous ces documents pour faire valoir, comme le dit la loi, les droits des citoyens, mais aussi les droits des administrations et des collectivités. Donc ces documents sont stockés dans la chapelle Saint-Pierre de la cathédrale et on va commencer à les organiser de manière thématique dans un premier temps. En 1803, la cathédrale est rendue au culte suite au concordat et Mgr Charrier de la Roche, qui était évêque de Chartres et de Versailles, à ce moment-là les deux sièges étaient unis, demande que la totalité de la cathédrale soit rendue au culte et on va déménager les archives départementales dans une maison qui se trouve dans une rue qui s'appelait la rue du Bœuf Couronné, à l'époque, aujourd'hui la rue Sainte-Même, exactement là où sont aujourd'hui construits les bâtiments du Conseil Général et de l'Assemblée Départementale, donc à côté de la préfecture d'Eure-et-Loire, actuellement. Nous allons rester 100 ans dans cette maison, de 1804 jusqu'à 1907. En 1907, nous sommes au lendemain de la séparation des Églises et de l'État, et le département vient de récupérer la propriété de l'ancien grand séminaire de Chartres, rue du Cardinal Pie, un très beau bâtiment construit entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Et ce bâtiment étant vide, la maison des archives était pleine. On décide de déménager les archives dans le grand séminaire, où je suppose que la plupart de vos auditeurs les ont connus, hein, dans ce très très beau bâtiment, qui avait beaucoup de charme, je suis le premier à le dire, mais malheureusement pas du tout adapté à une conservation moderne des documents que nous conservons. Donc, dans l'histoire des archives, il y a aussi une année qui est très importante, c'est l'année 1982, qui voit la décentralisation d'un certain nombre de services de l'État, et les archives départementales font partie de ces services qui ont été décentralisés et donc qui ont été confiés aux conseils généraux. Donc à partir de 1982, le Conseil général d'Eure-et-Loir hérite d'une situation d'archives assez complexe, puisque le bâtiment de la rue du Cardinal Pie était plein, qu'il fallait projeter de construire un bâtiment, mais pour construire un bâtiment, il faut de l'argent, et malheureusement, on ne le trouve pas toujours très facilement. Donc le président Taugourdeau, qui a présidé aux destinées du département, souhaitait vivement avoir un bâtiment neuf pour les archives départementales, et ce n'est qu'en 2004 que son successeur, le président de Montgolfier, a pu mettre à exécution ce projet de construction en confiant à Stanislas Fischer la construction du bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
Et qui offre donc toutes les conditions requises pour la bonne conservation de ces manuscrits qui sont fort anciens. Quel est le document le plus ancien conservé actuellement dans les archives?
Alors en Eure-et-Loir, nous sommes très fiers parce que nous conservons les documents les plus anciens des archives départementales en France. Notre plus ancien document date des années 680, c'est-à-dire de la période mérovingienne. C'est un authentique de reliques qui vient des archives du chapitre de la cathédrale de Chartres. Et cet authentique de reliques, en fait, c'est un petit morceau de parchemin qui fait quelques centimètres carrés, écrit dans une écriture très complexe qu'on appelle la cursive mérovingienne, et qui est une véritable star dans le métier des archives parce que il a été très connu sous l'Ancien Régime, et on en avait fait un fac-similé au XIXe siècle qui a représenté les archives de la France à une exposition universelle.
On va effectivement aborder la paléographie et l'importance de cette science après une petite pause musicale avec les orgues d'Italie. Après ce petit interlude musical, nous allons continuer de parler non seulement des archives départementales de Eure-et-Loir avec son directeur qui est avec nous dans le studio, Emmanuel Rousseau. Il venait de nous parler d'un authentique, d'un saint évêque, Monulf, du 7e siècle, donc une star parmi les documents en France, disiez-vous. Donc qu'est-ce qu'un authentique ?
Un authentique, c'est un document que l'on joint à une relique pour dire que la relique est bien authentique. Et donc ce petit morceau de parchemin se trouvait dans un reliquaire conservé à la cathédrale Et au XVIIe siècle, comme on le faisait fréquemment, on a ouvert les reliquaires de la cathédrale pour vérifier l'état des reliques et surtout vérifier les authentiques, hein, que les documents qui authentifiaient étaient bien présents. Et on a trouvé ce petit morceau de parchemin. Et à ce moment-là, dans l'histoire de la France, à la fin du XVIIe siècle, il y a un personnage extrêmement important qui passe par Chartres, ou en tout cas qui va s'intéresser aux archives à Chartres, qui s'appelle Dom Mabillon, qui est l'ancêtre pour nous de tous les archivistes. Et Dom Mabillon est le fondateur d'une science que l'on appelle la diplomatique, c'est-à-dire une science qui... qui permet de savoir quand on regarde un document s'il est authentique ou non. Donc on va en regarder le matériau, l'écriture, donc la paléographie, mais aussi la langue, pour dire voilà, ce document date bien de l'époque qu'il prétend être. Et ce petit morceau de parchemin, eh bien, immédiatement a été reconnu comme étant un original de la période mérovingienne. Donc 680, on était quasiment 1000 ans plus tard quand on l'a trouvé. Donc c'était tout de suite considéré lui-même comme une relique, si je puis dire.
Oui.
Et il a été très célèbre. Au moment de la Révolution, le fonds du chapitre de la cathédrale de Chartres a été confisqué au profit de la nation. Hein, c'est ce que disent les lois de sécularisation des biens de l'Église, les lois de 1789 et de 1790. Et l'authentique est entré dans les collections des archives départementales. Au XIXe siècle, comme je vous le disais, on en a fait une reproduction sous une forme lithographique afin de l'exposer à une exposition universelle. Et aujourd'hui, c'est le plus ancien document des services d'archives départementaux de France. Il y en a de plus anciens aux archives nationales, qui sont aussi des authentiques, qui proviennent de l'abbaye de Chelles. Et bien sûr, à la Bibliothèque nationale, il y a aussi des documents plus anciens. Ce qui s'est passé au moment de la Révolution aussi, pour que on parle de la différence entre les archives et les bibliothèques, au moment de la Révolution, on a séparé les manuscrits littéraires ou bien les manuscrits prestigieux avec des belles enluminures, notamment pensons aux manuscrits de Fulbert, hein, qui ont été envoyés à la bibliothèque municipale de Chartres. Et... En 1944, c'est cette partie-là des collections qui a été détruite, puisque dans un bombardement, les Alliés ont touché un dépôt d'essence qui se trouvait à côté de la bibliothèque municipale, et donc l'incendie du dépôt d'essence s'est propagé à la bibliothèque qui a intégralement brûlé, enfin quasiment intégralement brûlé. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques-uns des manuscrits très prestigieux qui étaient conservés à la bibliothèque municipale. Par chance... les archives départementales n'ont pas été touchées par le bombardement. Elles avaient été partiellement évacuées dans les sous-sols du bâtiment de la rue du Cardinal Pie, et la Providence a voulu que les bombes ne tombent pas de ce côté-là de la cathédrale. Les bombes sont tombées plutôt sur la droite de la cathédrale et pas sur la gauche. Mais si les archives avaient été bombardées, on aurait connu exactement la même catastrophe que la bibliothèque municipale. Donc ce qui a disparu en 1944, ce sont les manuscrits de la bibliothèque et non pas les manuscrits des archives.
Ce qui aurait été une grande catastrophe, car si effectivement les archives brûlent, on perd l'histoire.
Tout à fait, parce que les archives sont la mémoire d'un territoire, se permettent d'en écrire l'histoire. Et ce qui est très intéressant dans les archives, tout à l'heure je vous disais qu'on conservait des archives pour faire valoir des droits. Et ça c'est très vrai parce que, pour vous donner un exemple extrêmement concret, il y a des documents du XIIIe ou du XIVe siècle, des parchemins, qui définissent des droits d'eau, par exemple entre le chapitre de la cathédrale de Chartres et puis des abbayes du département, des droits d'eau sur l'Eure dans des histoires de moulins. Eh bien, ces droits d'eau sont toujours valables aujourd'hui. Et ces documents du XIIIe et du XIVe siècle sont susceptibles d'être produits devant une juridiction administrative en cas de besoin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Révolution n'a pas aboli la loi administrative, la Révolution a codifié la loi civile et la loi pénale, hein, par le Code civil, mais bien souvent, il y a encore des textes de la pratique administrative de l'Ancien Régime qui sont valables. Et c'est essentiellement pour ça, d'ailleurs, que ces documents anciens ont été préservés, parce qu'ils permettent aujourd'hui encore de faire valoir des droits.
Parce qu'effectivement, on ignore complètement que l'heure était morcelée, il y avait des planches qui donnaient accès à l'eau, les teinturiers du rouge, les teinturiers du bleu n'avaient pas accès le même jour. On ignore complètement cette réalité qui préoccupait l'homme du Moyen-Âge. Et on sait que les moulins ne pouvaient plus marcher sans l'eau.
Tout à fait.
Et il y a eu même un assassinat ou un...
Alors, il y a eu le plus ancien plan que nous conservons aux archives départementales, date de 1473, et il a été réalisé dans le cadre d'une affaire de justice. La justice produit beaucoup d'archives, depuis toujours.
Oui, et cela continue, effectivement.
Ça continue encore aujourd'hui. Et dans cette affaire de 1473, le seigneur de Nogent-sur-Eure avait construit un pont sur l'Eure qui empêchait les bateliers de circuler librement parce qu'il prétendait, bien entendu, avec la construction du pont, faire percevoir un péage aux bateliers. Donc il y a eu des échauffourées, il y a même eu un mort, je crois. On conserve le procès, c'est une affaire extrêmement intéressante. Mais par ce plan, eh bien, on réalise aujourd'hui que l'Eure était navigable très loin en amont, plutôt très loin en amont de Chartres, qu'on pouvait y avoir des bateaux. C'était un des axes essentiels, je dirais, du commerce médiéval, et même jusqu'à l'époque moderne, on circule sur l'Eure. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 858, quand les Vikings arrivent à Chartres, ils arrivent par l'Eure. Et c'est à cette occasion-là qu'ils détruisent la cathédrale, qu'il la brûle et qu'il martyrise une partie du clergé chartrain. Et donc cette circulation sur l'Eure, elle est très présente dans les archives départementales d'Eure-et-Loir parce que l'Eure est, je dirais, une des composantes économiques essentielles du département à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Et donc les moulins occupent eux aussi une place très très importante. Les moulins à eau, il suffit simplement de se promener en basse ville de Chartres pour voir tous les moulins à eau qui subsistent. Je pense en particulier au très beau moulin de l'ancienne abbaye Saint-Pierre, qui était une propriété de cette abbaye. Et nous avons un plan qui est assez amusant, qui date de 1705, et qui représente les moulins de manière extrêmement naïve. On voit la ville représentée très schématiquement, et puis ces moulins avec leurs aubes qui plongent dans l'Eure. Et tout cela a été établi à l'occasion de chicanes, en fait, juridiques. Donc,
il faut se réjouir, effectivement, des litiges qui ont pu opposer les gens au Moyen-Âge.
Exactement.
Grâce à ces échauffourées, nous avons la trace de tout ce qui se passait à cette époque-là.
Tout à fait. Et aujourd'hui encore, les archives de la justice, pour les siècles futurs, illustreront bien la vie qu'on pouvait avoir en Eure-et-Loir.
Alors après une très petite pause musicale, nous allons aborder la paléographie qui nous permet effectivement d'exploiter tous ces documents. Après avoir parlé de l'importance de l'eau et des litiges qui pouvaient opposer l'homme du Moyen-Âge justement au sujet de l'accès à l'eau, nous voilà à nouveau avec Emmanuel Rousseau qui va nous parler de la paléographie, justement la science auxiliaire de l'histoire qui nous permet d'exploiter tous ces documents qui nous sont parvenus d'il y a fort longtemps. Donc qu'est-ce que la paléographie ?
Alors la paléographie, pour prendre l'explication d'une manière étymologique, hein, c'est un mot qui nous vient du grec, paléos, et puis graphein. Paléos, ça veut dire ancien, et puis graphein, écrire. Donc c'est la science du déchiffrement des écritures anciennes. Vous savez qu'on a écrit de manière différente au cours des siècles. Alors, la méthode que nous proposons, puisque nous donnons des cours aux archives départementales, c'est de commencer par les périodes les plus reculées, dont l'écriture n'est pas forcément la plus difficile à lire. Tout à l'heure, au début de l'émission, je vous parlais de cet authentique de reliques qui est écrit dans une écriture qu'on appelle cursive mérovingienne, c'est-à-dire une écriture manuscrite mérovingienne qui est très très compliquée à lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que après la période gallo-romaine et puis le morcellement de l'Empire romain, chaque pays a eu son type d'écriture. Et il y a eu un homme formidable qui est arrivé après la période mérovingienne qui s'appelle Charlemagne. Et il savait toute l'importance de l'écriture pour véhiculer les lois et les ordres et unifier l'immense empire qu'il avait réussi à constituer. Et donc Charlemagne a inventé ou fait inventer une forme d'écriture que nous appelons l'écriture caroline. Et cette écriture, nous l'employons encore aujourd'hui quand nous tapons quelque chose sur l'ordinateur ou bien que nous écrivons quelque chose, c'est de l'écriture caroline. Cette manière de former les lettres est universelle dans toute l'Europe occidentale. Et à côté de cette caroline, eh bien, on a Cyrille et Méthode qui développent l'écriture dite cyrillique pour l'ensemble du monde slave. Donc ça, c'est une chose absolument fondamentale que cette réforme de l'écriture sous Charlemagne, parce qu'elle donne une vraie racine à l'Europe occidentale. Voilà une vraie racine pour l'Europe occidentale, l'écriture. Et cette caroline, eh bien, elle est très facile à lire, parce que nous la connaissons très bien. Donc les manuscrits du 8e, 9e, 10e, 11e siècle sont assez simples à lire, même 12e et 13e siècle sont encore assez simples à lire. Puis, pour des raisons de rapidité, les scribes vont, comme on le dit dans notre métier, abâtardir l'écriture, c'est-à-dire qu'on va écrire de plus en plus rapidement, vouloir noter le plus possible d'informations, et donc on va inventer des systèmes d'écriture qui vont modifier cette écriture caroline pour la rendre cette fois-ci un petit peu plus difficile à lire. Donc plus on avance dans le temps, je dirais, plus l'écriture va devenir complexe, mais la forme des lettres reste la même à la base. Et donc la paléographie, c'est savoir distinguer quelle est la lettre et surtout quelle est la manière d'écrire la lettre. Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, sous Charlemagne, on fait le E comme on le fait presque aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure du temps, au 15e, 16e, 17e siècle, le E se réduit à être simplement deux traits parallèles.
Que les Allemands ont repris dans l'écriture suterline.
Voilà, exactement. Et donc, il y a une forme d'écriture qui va être très complexe à la fin du 16e siècle et au début du 17e siècle. Puis, par une espèce de contre-mouvement, on va revenir de plus en plus vers des lettres très bien formées pour aboutir à ce que nous avons aujourd'hui. Hein, comme ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à l'époque gothique, les lettres vont devenir très anguleuses. On va avoir des lettres presque carrées, hein, comme on les connaît dans l'écriture gothique. Et puis au moment de la Renaissance, les hommes de la Renaissance vont vouloir revenir à ce qu'ils appellent l'Antiquité, mais qui en fait et l'écriture caroline des origines des années 800. Et donc nous avons aux archives départementales de très très beaux exemples de toutes ces lettres. Je pense en particulier à un diplôme du roi Charles le Chauve, hein, de l'empereur Charles le Chauve, qui date de 876, qui est l'un de nos plus anciens documents, là aussi. Puis une charte de la comtesse Liégeard, qui était une tante du Capet, qui date de 978. Puis un acte qui est très émouvant, qui date des années 1000, qui est la fondation de l'église de la Madeleine à Chartres, par Saint-Yves de Chartres. Donc ça, c'est un très beau document, très très bien calligraphié. Et puis, plus on avance dans le temps, eh bien, on a de grandes chartes des rois de France en faveur de la cathédrale, mais aussi des actes de justice, dont on parlait à l'instant, les actes des notaires du chapitre, aussi, de la cathédrale, qui sont très très importants à partir des années 1340, et qui permettent, toutes ces collections permettent d'avoir une vision extrêmement intéressante des différentes formes d'écriture. Donc il faut apprendre, je dirais, à les déchiffrer.
Alors l'évolution de l'écriture permet de dater des documents.
Tout à fait.
L'examen donc de l'écriture qui évolue, la langue utilisée, puisqu'on va passer du latin au français parlé, et puis aussi le support. Quel est le support au Moyen-Âge?
Alors le support idéal au Moyen-Âge, c'est le parchemin. pour les documents, parce que le parchemin, qui est une peau, c'est de la peau de mouton, de bœuf, de veau, de lapin, est extrêmement résistant aux conditions climatiques assez peu amènes que l'on peut avoir en Europe occidentale. Le parchemin se conserve extrêmement bien. Et avant le parchemin, on avait utilisé le papyrus, qui lui vient d'Égypte, mais depuis la rupture des liens commerciaux avec le Moyen-Orient, vers les années 900, on arrête d'employer le papyrus. Alors, concurremment au parchemin, on sait que l'on utilisait aussi des tablettes avec de la cire pour faire les brouillons.
Notamment, comme chez les
Romains. Comme chez les Romains, c'est exactement le même système. Et les Romains employaient aussi le parchemin pour les documents les moins importants. Ils employaient le papyrus pour les documents les plus importants et puis le parchemin pour les documents les moins importants. En Europe occidentale, dans l'Europe du Nord, on va employer le parchemin comme le support privilégié de l'écriture quasiment jusqu'à la Révolution. Et le papier fait son apparition à partir du sud, parce que le papier nous vient de la Chine, il nous est venu du bassin méditerranéen par les Arabes, et donc il va remonter par le sud de l'Italie petit à petit. À la fin du XIIe siècle, on a les premiers papiers dans l'Europe du Sud, et puis ici à Chartres, eh bien, les premiers papiers, on les a vers 1350, les premiers documents sur papier. Alors c'est un papier au chiffon, extrêmement résistant, d'une qualité absolument extraordinaire, qui n'a rien à voir avec le papier qu'on produit aujourd'hui, et on emploie les deux supports de manière concurrente, avec une préférence pour le parchemin pour les documents les plus importants. Et aujourd'hui encore, enfin les plus âgés de vos auditeurs doivent se rappeler que autrefois on appelait le diplôme du baccalauréat le parchemin, parce que il était toujours imprimé sur un parchemin. Moi-même, je crois que le diplôme de mon baccalauréat était imprimé sur du parchemin ou du faux parchemin.
Oui, du faux, parce que vous êtes trop jeune, je pense, pour avoir connu cette époque. Alors, nous voilà déjà presque à la fin de notre émission, qui a été des plus intéressantes, parce que grâce à vous, nous savons beaucoup plus sur l'histoire des archives, du contenu de ce bâtiment qui, malgré sa modernité, abrite, comme vous l'avez dit, un authentique d'une époque fort reculée. Donc peut-être pour clore l'émission, vous voudriez peut-être vous adresser à tous les érudits en herbe du département qui seraient intéressés. Les archives sont ouvertes.
Les archives sont largement ouvertes puisque la loi qui nous fonde, pour nous revenir au début de notre entretien, en 1796, dit que tout citoyen qui en fera la demande sera admis gratuitement et librement à consulter les archives qui sont dans les dépôts publics. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, donc du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 16h. Et vraiment, venir aux archives, je dirais que ça nous donne beaucoup de joie parce que nous avons l'occasion de communiquer les documents que nous conservons, qui vont, oui, du 7e siècle, mais jusqu'à 2009. Donc nous avons aussi des archives très très récentes aux archives départementales. Et j'ai un peu envie de vous dire que les archivistes, surtout eux, ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Donc venez très nombreux aux archives départementales.
Merci beaucoup Emmanuel Rousseau.
Merci.
Au revoir
à vous.
Chers auditeurs.